Donc cet après-midi, on va poursuivre la réflexion si riche de ce matin. On va essayer de ne pas l'appauvrir. Ça va pas être facile parce que c'était particulièrement bien. Enfin, j'ai trouvé, hein, je sais pas votre avis, mais enfin bon. Et là, on est plutôt sur l'aspect de la plateforme vraiment, c'est-à-dire vont intervenir des amis qui sont autour de moi. Donc je les présente pas, ils se présentent eux-mêmes, mais quand même un mot. On a Eddy qui donc lui est un élu de la CCAS-EDF, il s'expliquera. On a Henri Errico qui vient de STI et qui est élu dans son entreprise au comité d'entreprise, mais surtout qui est le président de d'Écran Total, hein, qui est le... Voilà, parce que c'est loupé, mais qui organise effectivement Écran Total pour le coup, et avec qui nous accueille quelque part, et qui avec qui un partenariat a été établi pour faire cette journée. Donc il a une riche expérience, ainsi d'ailleurs que dit, d'action sur le cinéma. Et puis on a Sylvie Alfandéry, qui elle a créé il y a quelques années, mais elle s'expliquera là-dessus un peu plus, enfin bon. Qui s'appelle, elle en a dit d'ailleurs un petit mot ce matin, déjà elle a pris de l'avance, donc on va lui réduire un peu son temps pour gagner. Elle a créé une association qui s'appelle Autour du 1er mai, qui travaille les questions du cinéma et de la société, hein, on verra, et puis une base de données, enfin, etc. J'en dis pas plus, sinon je vais parler pour toi. Et puis alors Benoît Labourdette, qui est lui un peu à part par rapport à cette perspective, mais c'est son style. Donc qui est vidéaste, je t'appelle comme ça, mais bon, tu préciseras également, et qui travaille un peu sur ce qu'il a d'ailleurs commencé de dire un peu tout à l'heure, c'est-à-dire comment on peut effectivement pratiquer peut-être le cinéma autrement, avec tous les nouveaux moyens qu'on voit apparaître, qui peuvent être la pire des choses, mais qui peuvent aussi être des richesses absolument importante. Et il serait important, j'aimerais en tout cas que la table ronde permette de ça, de voir comment les comités d'entreprise, parce qu'on les oublie trop, même encore ce matin, je suis un peu agacé, parce qu'on oublie trop ce qu'ils font, dans les difficultés qui sont les leurs, et avec des réussites plus ou moins grandes, mais quand même, ils font, et c'est important de le souligner, que pour la diffusion du cinéma, pour la production des films, ils font des choses, et ils font aussi des films dans l'entreprise. Très peu, certes, mais bon, ils font. Donc, ça serait intéressant de voir comment vos structures, mes amis, là, peuvent s'emparer un peu de tout ça pour renouveler, à la fois approfondir, revenir aux fondamentaux un peu de ce que c'est qu'une activité de comité d'entreprise ou d'association, au fond, qui s'intéresse aux questions du travail, qu'elle est revenir sur les objectifs et voir comment aujourd'hui on peut effectivement renouveler des pratiques, les enrichir grâce à la fois à notre intelligence et aussi aux techniques dont les jeunes s'emparent, dont tout le monde s'empare. Je dis les jeunes, c'est pas vrai. Moi, je suis pas jeune et je m'empare des techniques. Pas assez, d'ailleurs. Bon, voilà. Alors, je laisse la parole pour commencer à Henri. Et puis après, vous verrez. Pardon.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, Henri Errico, président des CETIS La Toile. Je veux un peu vous dire un peu comment est né le festival, est née cette association. Donc en 2001, je faisais partie de la commission culturelle de TTI, animée par Pascal Puig, aujourd'hui directrice du cinéma Montciné. Et à cette période, à Grenoble, se construisait un deuxième multiplex. Et nous, en tant que membres de la commission culturelle de TTI et adhérents de l'association, on se posait beaucoup de questions parce que on s'est dit là, on vendait déjà beaucoup de billetterie pour le cinéma Pathé, qui est à Échirolles, en périphérie de Grenoble. Et on s'est dit avec la construction d'un multiplex en plein centre-ville, ça risquait de doubler, voire tripler la vente de billets. Et surtout, on avait la crainte que les cinémas d'art et essai en pâtissent fortement. Donc, on a creusé, on a réfléchi, et après, on s'est rapproché de l'association Acrira. On a fait plusieurs réunions, et c'est des réunions très riches, parce qu'à l'époque, je me souviens, il y avait tous les directeurs de salles de cinéma d'art et essai qui participaient à ces réunions. Et au bout de ces réunions, qui ont été vraiment très constructives, on a décidé de mettre en place ce festival, qui, je le rappelle, est unique en France, où, qui nous a permis de découvrir des métiers, parce que les métiers du cinéma, nous, en tant que élus de comité d'entreprise ou qui travaillons dans des entreprises du privé, ne connaissions complètement pas. Donc, cet échange a été très enrichissant pour chacun, je pense. Et donc, on a créé ce festival avec, à l'époque, déjà, on était une dizaine de CE, de comités d'entreprise. Et le premier festival a eu lieu à Montciné, il me semble, si je ne me trompe pas, ou salle de jeu de paume, je ne sais plus. Ici, hein. Visil, voilà, salle du jeu de paume, on a fait notre premier festival. Et qui s'est très bien déroulé. On a eu un très bon accueil aussi bien dans les comités d'entreprise et parmi les salariés que parmi les salles de cinéma. Et tout ça a duré jusqu'en 2013. Malheureusement, en 2013, TTI disparaît, fait faillite. Donc on s'est dit que faire, que pouvons-nous faire pour que le festival continue. Donc les élus des comités d'entreprise, partie prenante du festival et l'association Acrira, on s'est dit il faut qu'on crée une association et que ce festival perdure, parce que s'il ne s'arrête ne serait-ce qu'une année, est-ce qu'il repartira? On était vraiment pas sûr du tout de tout ça. Donc on a créé cette association et bon an mal an, et ben le festival a continué à vivre. On a pu d'autres CE sont venus nous rejoindre et on a pu aussi par là même créer des soirées à thématiques, des soirées spéciales. Et on a bon an chemin faisant, on a réfléchi parce que on vendait aussi de la billetterie pour des salles de cinéma d'art et d'essai. On s'est dit pourquoi pas aussi créer un cinéma à un ticket unique. Aujourd'hui, quand on achète un ticket pâté, on peut aller dans tous les pâtés de France. Mais quand on vend un ticket pour un cinéma d'arrêt d'essai, ben on peut pas aller dans tous les cinémas d'arrêt d'essai. Donc on a créé un ticket unique qui a permis au CE de simplifier leur comptabilité et de vendre plus de billetterie pour le cinéma d'arrêt d'essai. Donc voilà un peu notre parcours. Donc on est là aujourd'hui, on est très heureux, on est à notre 19e édition. Et il est vrai que pour l'avenir, ce qui serait intéressant, alors je vous le cache pas, j'allais oublier je vous cache pas que chaque année c'est quand même très très difficile. On a les CE historiques qui adhèrent chaque année, on n'a aucun problème qui reviennent chaque année, mais c'est toujours quand même une démarche volontariste, militante, pour qu'un CE nous rejoigne ou se maintienne dans l'aventure. Parce que ça reste quand même, comme le dit Jean-Pierre, ça reste qu'une démarche, d'un comité d'entreprise qui a envie de faire autre chose, qui a envie de promouvoir le cinéma d'art et d'essai, qui a envie de un autre regard sur le cinéma. Voilà, c'est notre slogan de création. Donc ça reste très difficile de maintenir ces comités d'entreprise. Mais on y arrive chaque année, on a des nouveaux, on a des belles surprises, on a des fois des déceptions suivant les élections et suivant les majorités qui changent. Mais le festival dure et les comités sont toujours là. Je tenais à le souligner quand même parce que les comités d'entreprise, moi je suis élu aussi à un comité de groupe européen, c'est unique en France. C'est un outil extraordinaire parce que moi-même quand j'ai été secrétaire du CE, on a de l'argent pour le dépenser. On n'a pas de l'argent pour faire de l'argent, pour fructifier cet argent. Et si on ose un peu, si on a envie de changer les choses, on peut faire plein de choses sans en maintenant de la subvention à la billetterie, de la subvention de l'accès aux vacances et toute autre chose. Mais si on peut arriver à avoir un budget pour créer des activités culturelles, pour mener à bien des missions culturelles qui peut être bénéfique aussi bien pour le comité d'entreprise aussi bien que pour les salariés. Donc pour le futur, je regarde l'heure, ouais, il me reste encore 3 minutes. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est qu'on arrive à créer des liens avec avec les autres festivals de cinéma locaux. Pourquoi pas, peut-être un jour, pour la 20e, créer un pont avec le festival de Poitiers. Ça serait intéressant. Et voilà, vraiment développer cet axe pour amener un public à pousser les portes d'un cinéma qui peut-être ils passent tous les jours devant, leur cinéma de quartier, mais qui n'oseront pas pousser cette porte. Parce que, par expérience, quand on amène un public qui n'a pas l'habitude de fréquenter des salles de spectacle, des musées, quand on arrive à les amener dans ces lieux, souvent, moi, on m'a dit, en tant que président de la commission culturelle, souvent des salariés avec qui je travaille, parce que j'ai toujours mon emploi, dit, mais ces lieux-là, c'est pas pour nous. On n'ose pas y entrer parce que c'est pas pour nous. Mais quand on arrive à les accompagner, à faire des médiations et à leur faire franchir le cap, on a vraiment des retours extraordinaires. Et ça, c'est vraiment la plus belle récompense qu'on peut avoir. Voilà.
Donc, alors, la règle du jeu est la suivante. Hein. Tu as intervenu, tu pourras intervenir. Et on voudrait avoir le maximum d'échanges de façon à ce que ce soit vraiment construit ensemble. Hein. Ce n'est pas une réflexion de quatre personnes qui sont là. Donc, tu prends le micro qui est là. Ça m'évitera de faire l'effort de te l'amener. Et puis, je pourrais te couper la parole comme ça.
Ça commence bien. Bon, ben bonjour tout le monde. Donc moi je suis Sylvie Dreyfus-Alfandéry, je suis donc présidente de l'association autour du 1er mai, mais je vais faire un petit retour en arrière pour que vous compreniez comment cette association a été créée. En 1995, vous savez tous qu'il y a eu la très grande lutte des cheminots. Et à ce moment-là, il y a une trentaine de films qui ont été faits par les cheminots en lutte. Bernard Thibault a été aux états généraux du documentaire à l'USAS. Et Jean-Louis Comolli, qui est un réalisateur mais aussi un théoricien du cinéma, a dit « Il y a une façon de s'exprimer dans ces films qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et c'est très important d'avoir fait ce geste cinématographique. » Alors moi, je travaillais à l'époque à la BNF et je savais combien c'était difficile parfois de retrouver des films. Parce que je m'étais occupée de la constitution de la cinémathèque du documentaire à la BNF, qui était de reconstituer une histoire du documentaire depuis ses origines. Donc ça avait été un boulot passionnant, mais pas facile, et je savais que de nombreux films avaient disparu. Et à l'époque, par exemple, les films de 68 étaient introuvables. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sébastien Layer qui a fait une thèse là-dessus, qui a retrouvé les gens qui les avaient faits. Et maintenant, ça paraît évident de voir des films sur 68. À l'époque, ça ne l'était pas. Il faut pas oublier ce genre de choses. Et donc, je m'étais dit, mais il faut absolument au moins garder la mémoire du cinéma. C'est très important, parce que l'histoire du cinéma, c'est quelque chose qui est important. Et en plus, le cinéma est matériau d'histoire, témoigne des luttes, des mouvements sociaux, des questionnements des gens. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. À garder. Et donc, je me suis dit, on pourrait faire, essayer de vous balancer ce que c'était dans les années 2000. Internet n'existe pas encore beaucoup. Il y a très peu de bases documentaires sur le cinéma. Il y a des catalogues de livres, ça vous imaginez, quand on va dans une librairie, ils pianotent sur leur ordinateur, ça fait longtemps. Il n'y avait pas ça pour le cinéma. Et donc, je me dis, on va faire une base qu'on a appelée la base cinéma et société, dans laquelle on va repérer les films qui sont intéressants depuis les débuts de l'histoire du cinéma. Et c'est comme ça que 1er mai est né. Bon, il se trouve que j'avais une maison en Corrèze, ça c'est fortuit, et que je faisais des programmations avec une association que vous connaissez certainement de nom, qui s'appelait Peuple et Culture. J'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, donc vous pouvez me dire.
Ça c'est le piège complet même pour moi, parce que je te faisais confiance.
Tu peux.
Si je te connais, j'aurais pas dû le...
3 minutes, ça va.
Là,
merci.
Il y a une solidarité.
Merci, camarade. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas créer cette association en Corrèze? Il se trouve qu'à l'époque, le maire de Tulle, c'était François Hollande. Donc, en 2005, je suis allée le voir. Ça avait maturé dans ma tête, hein, ça a mis 10 ans, par un beau jour de un samedi de décembre. Il faisait ses permanences de maire à Tulle en décembre. Et je lui parle de la base. Et il me dit, ma petite dame, c'est sympathique, votre affaire, mais c'est un peu un projet national. En quoi il avait parfaitement raison. Je savais qu'il allait me dire ça. Je lui dis, je savais que vous alliez me dire ça, monsieur François Hollande. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un festival de cinéma sur la thématique société, cinéma et société. Justement, c'est le 70e anniversaire du Front Populaire en 2006. Donc on a commencé comme ça. Et on a effectivement, depuis une quinzaine d'années, organisé les rencontres cinéma et société à Tulle. Alors, plutôt que de vous le décrire, est-ce que tu veux bien passer le petit PowerPoint? Comme ça, vous verrez les affiches du festival, comme ça, vous verrez tout ce qu'il y a. Ben voilà, c'est en train de passer. Donc, vous voyez. Donc, en gros, on alterne des thématiques et des dates importantes, comme vous voyez. Donc, Front Populaire, cinéma et monde rural, les années 68, l'utopie. Alors, on a des catalogues sur ces trois derniers, sur celui-là. Et sur le vert, on a des catalogues, donc si ça vous intéresse, on peut les déposer quelque part et que vous les récupériez un jour. Alors, ouvriers, ouvrières, la classe, j'en ai apporté quelques-uns si ça vous intéresse, parce que j'ai pensé que ça vous concernait largement, donc vous pouvez les prendre. Et voilà. Et le dernier, c'est donc un festival sur le train. Donc, on s'appelle pas autour du 1er mai pour rien, vous l'imaginez. Il se trouve qu'on organisait le festival autour du 1er mai aussi, donc ça tombait bien, mais c'est aussi parce que c'est le 1er mai, bien sûr. Par ailleurs, on se réclame de la tradition de l'éducation populaire. Autrement dit, on pense que les gens, ils sont pas seulement spectateurs, mais ils doivent être aussi acteurs. Et donc, on a imaginé des projets qui invite les gens à programmer des films. On discute des thèmes, on l'a fait avec des jeunes, mais on pourrait le faire avec d'autres gens, d'ailleurs on a d'autres projets. En gros, on discute d'un thème, après on leur propose un certain nombre de films, ils en choisissent un, et c'est eux qui le présentent, on réfléchit ensemble à quelles questions peuvent se poser, comment interagir avec les gens. C'est extrêmement difficile, on pourrait en discuter, mais c'est pas toujours si simple que ça d'animer des débats après les séances. Mais enfin, on essaye au maximum d'avoir cette pratique concrète de l'éducation populaire. Que vous dire d'autre encore? J'ai encore un petit peu de temps. Oui. Alors oui, quelques mots sur la base cinéma et société. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. En commençant par celles qui n'ont pas marché, moi, dans ma grande naïveté, je pensais qu'elle serait interactive. Parce que très vite, elle est devenue elle a été sur Internet, hein, puisque ça a correspondu. Et j'espérais que les gens nous suggéreraient des films aussi, puisque l'intérêt, c'est aussi de dire que le cinéma, il est témoin des questions qui se posent, et que donc, évidemment, dans la base, on met tout, hein, les fictions, les documentaires, les films militants, des films faits par les syndicats, mais encore faut-il les trouver. Donc, on est pas mal en éveil, mais c'est évident que vous tous, vous pouvez nous signaler des films, et on les mettra dans la base, c'est évident. Je veux dire, on vous fait confiance, si vous dites qu'un film est bon, on regarde pas tous les films qu'on met dans la base, sans ça, on n'en mettrait pas assez, bien sûr. Mais enfin, cette base, elle est vivante, elle devrait être interactive, elle l'est pas assez. Voilà. Ce qui a, par contre, bien marché, c'est les chemins d'accès. Alors, oui, en gros, j'étais à la BNF, donc je savais à quel point les catalogues de bibliothèques, ça peut être rasoir et pénible. C'est-à-dire, parfois, on trouve pas du tout ce qu'on cherche. Donc, on a essayé de faire 26 chemins d'accès, comme les lettres de l'alphabet, mais avec des phrases intelligibles, de façon à ce que les gens puissent retrouver quelque chose qui leur fasse écho. Donc, ça, vous pourrez aller voir, hein, c'est sur le site autour du 1er mai. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que... voilà, les chemins d'accès, donc vous cliquez sur tout ça, et après vous aurez donc les 26 chemins qui se dérouleront. Quelques mots sur le festival aussi, ça va? Je suis encore stressé par le temps. Mais bon. Donc, la philosophie de la programmation, c'est, on plonge dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire on montre pas du tout seulement les films récents, documentaires et fictions, films militants. Pour nous, le cinéma, c'est un territoire à part entière. Notre obsession, et je dois dire, et la mienne en particulier, c'est la question de la sortie de l'entre-soi, c'est-à-dire pas avoir toujours les mêmes gens, inviter des gens variés, les réalisateurs, mais aussi des gens de terrain, des gens, des témoins du mouvement social, des syndicalistes, des intellectuels qui ont travaillé sur... On essaye vraiment un maximum de faire que les gens se rencontrent, échangent, à partir de pratiques différentes, mais avec les mêmes objectifs, qui en gros avoir envie de changer le monde, hein, pour aller plus vite. Voilà. On fait des projections dans la salle de cinéma de Tulle, mais aussi à la campagne. Aussi, ça nous arrive d'en faire dans des maisons de retraite. Et je peux vous dire que les personnes âgées, il n'y a pas plus radical sur ce qu'elles ont vécu, leurs conditions de travail et ce genre de choses. Et par ailleurs, maintenant, on commence aussi à travailler en Nouvelle-Aquitaine, à Paris, au Majestic Bastille. Enfin, on commence à s'étendre un petit peu plus. Voilà. Donc, pour conclure, peut-être... dire que moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse travailler ensemble. On essaye de rendre compte un maximum de ce qui nous intéresse. Donc, quand vous avez des programmations, dites-le nous. On les mettra sur notre site. Ça permet de, bon, d'interagir. On aimerait... oui, ce qu'on... Je nous avais demandé une expérience, une ou deux expériences. J'ai envie de parler de l'expérience qu'on a fait avec... la Fédération Cheminot du Limousin. Il se trouve qu'on faisait donc un festival sur le train. On a invité une coopérative qui s'appelle RAICOP, parce qu'en Corrèze, c'est la cata. Ils sont en train de supprimer toutes les lignes secondaires, comme partout. Mais en Corrèze particulièrement, je peux vous dire qu'aller en Corrèze, c'est pas une partie de plaisir. Il y a des billets, on est forcé de les réserver sur Internet. Maintenant, on les réserve pas au guichet. Je vous dis pas les personnes âgées qui n'ont pas Internet. Enfin, c'est un scandale. C'est un scandale. Donc, il y a une coopérative qui s'est créée. Mais la CGT Cheminot est assez critique par rapport à cette coopérative. Mais ce qui a été très intéressant, c'est que ça a beaucoup discuté. Et je veux dire, c'est pas si évident que ça de faire que les discussions soient sereines et tout. Et ça a été vraiment très intéressant. Sur leur page Facebook, ils ont dit qu'on était des gens très sympathiques, donc c'était pas gagné. Moi, je dois dire que c'est moi qui animais le débat, j'avais un petit peu les chants. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de discuter avec des gens, même quand on n'est pas d'accord, en gros, d'essayer d'avancer pour voir sur quoi on est d'accord et sur quoi on n'est pas d'accord. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous agite, si je peux dire, c'est d'essayer de pouvoir discuter dans des conditions sereines, parce qu'en ce moment, je pense que le mouvement social, il a vraiment besoin de se réunir beaucoup, et que c'est pas inintéressant de pouvoir discuter aussi avec des gens avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, mais pour voir justement où en sont les désaccords. Voilà. Et dernière chose, là on va se lancer dans une base. Il se trouve que on a mis à profil que la période du Covid pour essayer de trouver des sous pour développer d'autres projets, parce que bon, et on va développer une deuxième base sur l'économie sociale et solidaire. Et le développement durable, et surtout tout ce qui s'invente pour essayer de transformer la société concrètement. Donc, cette base, on la lance ce soir à Paris, d'ailleurs, donc j'y serai pas puisque je suis là. Et voilà, ça me fait plaisir aussi d'être là, juste le jour où cette base se lance aussi. Voilà.
Parfait. Hein, même la salle ne peut manifester d'impatience. Alors, on va te laisser la parole. J'ai envie de te dire, avant de te donner la parole, qu'il y a eu deux témoignages, enfin, je sais pas comment appeler cela, mais ça serait intéressant qu'à partir de ton travail, tu nous dises ce que tu pourrais attendre de telle structure associative ou de tel comité d'entreprise, comment tu pourrais t'articuler ou les aider ou vous rencontrer pour avancer sur ce que je souhaite avancer.
Non, ben, ok.
Ok, alors, voilà. C'est possible ?
Oui, tout à fait.
T'essayes.
Je vais me brancher.
Ah ouais, ça y vaut mieux.
Change de siège, peut-être. Voilà. Ah, non, mais ça va.
C'est bon, c'est bon.
Je suis bien.
Non, c'est bon, non, je suis bien.
Je pense que ça va aller.
Alors, attends, je mets les 10 minutes. Voilà. J'ai un compteur. Alors bonjour, je suis Benoît Labourdette, je suis cinéaste, pédagogue et j'essaie d'être dans la question de l'innovation culturelle. Pourquoi innovation culturelle ? Vous allez voir, je vais partir sur un exemple. Il me semble que le rôle du cinéma et des images comme fait culturel, bah finalement c'est un rôle social, c'est un rôle démocratique et en fait les spectateurs que nous sommes tous, bah on change avec les technologies qui changent les usages. Et donc, par exemple, il y a 16 ans de ça, j'avais fondé avec le Forum des images à Paris le festival Pocket Film en 2005, festival consacré aux films tournés avec téléphone portable. Et rappelez-vous, en 2005, c'est là que la caméra est apparue dans les téléphones portables. Donc, l'innovation qu'elle soit technologique ou culturelle, elle m'intéresse si elle vient finalement nous aider à trouver à nouveau du sens et à ancrer le sens de nos actions. Hein. Alors, je vais partir sur un exemple, et puis ensuite, je répondrai à ta question et je ferai des propositions. Un exemple une action qui m'avait été demandée par la CCAS, le comité d'entreprise d'EDF. On verra plus de détails tout à l'heure. Alors, j'essaie de vous mettre en situation, là, pendant 2 minutes, et ensuite, je commenterai cet exemple. Alors, imaginez que vous êtes dans un centre de vacances, voilà, vous allez passer vos vacances, et puis... Dans le réfectoire, vous voyez, il y a une sorte de truc comme ça, une sorte de caméra, des feutres, un vidéoprojecteur, vous savez pas trop ce que c'est. Ou alors, vous allez manger le midi à votre restaurant d'entreprise et puis il y a une sorte de truc comme ça, un mot, un dessin, un commentaire. Et puis, vous voyez que bah, il y a des feutres aussi, vous pouvez faire des dessins et puis on peut vous enregistrer. Donc, et puis ensuite, là, c'est dans le centre de vacances, on peut regarder... les films qui ont été faits par les gens le soir. Alors, en l'occurrence, si je prends cet exemple, c'est qu'il s'agissait d'une thématique sur le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail ? Et donc, les gens, ils sont en vacances, ou alors c'est le midi, et on leur propose de faire des films sur le travail. Sympa ! Donc, je vais vous montrer... un film qui a été fait. Alors il y en a plein. Je vous en montre un qui dure 1 minute. Et puis après je vous dis la suite de l'expérience. Donc une personne qui vient. Et puis en fait je disais simplement aux gens, voilà, vous allez faire un dessin sur c'est quoi pour vous le travail. Un dessin, un schéma. Même si vous savez pas dessiner, vous faites un truc. Et après votre dessin, je vais vous enregistrer et vous allez faire le commentaire du dessin. Donc même si on sait pas dessiner, c'est pas grave. Alors c'est parti pour 1 minute. Ah, il faudrait le son, par contre. Parce que sans le son, en fait, ça n'a pas de sens. il marchait tout à l'heure. Attendez, je vérifie si je l'ai. Là, je vous... C'est... Ah, non, là, normal, ça parle, en fait, hein, normalement. Hein. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est le piège. Alors, ouais, disons que ce qu'elle raconte, voilà, ça donne sens parce que là, vous voyez juste les images. Sinon, je vais vous faire le son à sa place. Hein. C'est pas grave. Ah, allez, c'est parti.
En ce mois par an, je travaille sur un plateau acheminement Enedis derrière mon écran. C'est un travail plutôt individuel et qui ne permet pas de m'épanouir totalement. Heureusement, 5 semaines par an, je suis responsable d'un centre de vacances. Et là, tout mon engagement, mon militantisme, mes idées politiques et autres, je les vis à fond pour les bénéficiaires. J'aime ce travail parce que justement, on est en contact, on partage... On vit plein de choses avec eux et c'est ce qui me permet, en plus de mes autres mandats et engagements, d'être bien tout au long de ma vie.
Voilà, alors du coup, elle fait son film. Donc il y a tout le monde fait des films, hein, les enfants, les adultes. C'était une tournée dans divers centres de vacances pour prendre ça. Donc je vais pas vous montrer les autres films. Et puis juste après qu'elle ait fait son film, donc le montage est très vite fait. Et puis ça, vous pouvez le flasher avec votre téléphone. Vous pouvez sortir votre téléphone portable si vous voulez bien. Même si nous sommes dans une salle de cinéma. C'est un QR code. Alors, celui-là, c'est un QR code sympathique. Rien à voir avec ceux de l'entrée. Ça, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Mais la liberté d'expression existe. Voilà. Donc, en fait, ce QR code permet d'accéder à un petit espace web où on va retrouver au fur et à mesure tous les films qui sont faits. Et là, c'est une dimension un petit peu patrimoniale, donc ça date de 2018. Vous pouvez retrouver ce film-là, là, centre par centre, et ainsi que les autres qui ont été faits. Et en fait, si vous voulez, la question, c'est la question de l'appropriation. C'est-à-dire que vous avez bien compris, maintenant je fais le commentaire de l'expérience, il s'agit d'une proposition d'expression encadré. Ce que les gens ont fait là, jamais ils l'auraient fait d'eux-mêmes. Évidemment, l'expression, on a l'impression qu'on est nul, etc. Et ce cadre-là, eh bien, il va permettre d'accompagner, si vous voulez, chaque personne à construire quelque chose, même sans être sûr de soi. Et puis, surtout, ce qui est très important, c'est le moment du visionnage collectif et la possibilité de retrouver les films sur Internet, de les envoyer. On a des enfants qui ont envoyé leur film à leur grand-mère qui n'était pas là, etc. Donc, finalement, moi, il me semble que dans la pratique amateur, il s'agit de pratique amateur, bien sûr, on peut y mettre de l'exigence. C'est aussi pour ça que je vous envoie le lien. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que ce sont des amateurs que c'est mal, que c'est moins bien que ce qui est fait par des professionnels. Simplement, les films amateurs, ils sont d'une autre nature que les films professionnels. Ils sont faits dans une autre logique, mais pour moi, ils sont tout à fait complémentaires. C'est-à-dire que on peut tout à fait les passer en avant-programme d'un film, etc. Donc voilà, je voulais prendre cet exemple. Donc c'est ça, hein, ce que vous avez sur votre téléphone, hein. Et puis avant, je le faisais de façon beaucoup plus basique. C'était juste la liste des films, mais il y a la question patrimoniale aussi, c'est-à-dire que ils ont une valeur en fait, ces films. Ils sont là, ils datent de 2018. Et ben ils seront toujours jusqu'à ce que peut-être je disparaisse. Mais enfin, ils sont à la BNF aussi. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, ben, je pense que j'ai posé les enjeux. Il me semble que le rôle du professionnel dans ce cadre-là, ce n'est pas d'être dans le mimétisme d'une pratique corporatiste professionnelle de comment on fait un film avec un scénario, etc. C'est plutôt de proposer un dispositif de création adapté à la situation et qui va permettre de produire des objets audiovisuels intéressants, mais qui sont pas en concurrence avec les objets professionnels. Au niveau de la CCAS, j'ai encore une minute 40. Au niveau de la CCAS, lorsque j'avais reçu ces propositions de faire des choses avec les bénéficiaires, bien en fait, il y avait eu pas mal de démarches de proposer aux gens d'écrire des choses, de créer des choses, de faire des photos, mais c'est pas évident. Parce que on n'est pas sûr de soi et que précisément c'est l'objectif de ce type de pratique d'accompagner les gens, si j'ose dire, de leur tenir la main dans leur autonomie d'expression en fait. Et du coup, je crois très fort à la médiation, à la présence de l'artiste dans cette écoute et dans cet accueil. Et on le voit bien, par exemple, des gens qui tournent. J'étais là plusieurs jours dans les centres de vacances, qui tournent, qui n'osent pas et puis qui finalement le font à la fin, vous voyez, qui se déclenche, ou même certains qui ne le font pas, mais qui ont vu que d'autres le faisaient. Et je pense que cette dimension-là de s'exprimer soi-même, elle est constructive, voilà, humainement, tout simplement.
Écoute, merci. Hein. D'ailleurs, ce qui est assez appréciable, entre autres, mais c'est que tu nous as mis dans cette démarche même en expliquant, puisque tu nous as fait. Et donc ça, c'est vraiment de l'éducation populaire, pour le coup. Donc, maintenant, je vais laisser la parole, parce que on a parlé de ton organisation, hein, t'as vu. Mais elle fait pas que ça, elle fait plein d'autres choses. Tu vas nous dire un peu, Eddy.
Ouais, je vais essayer. Je vais mettre le chrono, parce que ça risque d'être un peu tendu. En termes de temps, je vais essayer de pas être long et assez synthétique, mais bon, je suis Eddy Combré, donc je suis un agent de. Ça me faisait sourire parce que vous parlez encore du comité d'entreprise d'EDF, sauf que c'est plus ça depuis la déréglementation du secteur de l'énergie où maintenant on est un comité d'entreprise de 161 entreprises qui produisent, transportent, distribuent du gaz et de l'électricité, 160 entreprises concurrentes, quoi, en fait. Même si au sein de ces entreprises, il y a une dizaine de grosses entreprises qui prennent beaucoup de parts du marché. Donc ça, c'était pour l'anecdote, pour vous dire que les choses évoluent et pas toujours dans le bon sens à notre goût. Donc moi j'étais embauché, alors à l'époque c'était EDF, j'étais embauché dans les années 90 comme releveur de compteur. Voilà, petit à petit je me suis engagé. J'avais une vision du syndicalisme comme tout le monde. Quand je suis rentré, je connaissais pas trop. Puis j'ai regardé. Puis voilà, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas faire autrement que de m'engager. Donc je me suis engagé petit à petit, et je me suis aussi engagé parce que les activités sociales aussi ont été quelque chose qui, en termes d'épanouissement et de goût et de désir de l'engagement, ont joué un rôle quand même important. Donc je me suis engagé petit à petit sur des mandats évolutifs, et donc là depuis quelques années je suis au conseil d'administration de la CCAS. J'étais trésorier général jusqu'à il y a quelques semaines, et je suis membre de la commission culture, et à ce titre-là je pilote notre événement cinéma qui est un événement dans une politique, j'y reviendrai après, de rencontre avec l'expression cinématographique qui est plus large que ce festival, mais je pilote l'événement Vision Sociale qui est un événement qui se passe en lien et pendant le Festival de Cannes, et où on a un partenariat avec les différentes sections du Festival de Cannes, et où on a une programmation en propre sur notre site, le site de la Napoule, et où on propose donc des accès aux différentes programmations de l'ensemble des sections du Festival de Cannes aux bénéficiaires qui viennent sur le site. Alors j'ai un petit film que je vais vous, qui fait 2 minutes, il y a du son aussi, donc qui présente un peu, c'était un truc à destination des bénéficiaires pour les inviter à venir. Donc je vous le présenter parce que donc il est bien parce que c'est nous qui l'avons fait. Et puis il y a un peu de soleil. Alors je suis arrivé ce matin, j'ai vu que c'était bas de plafond ici. Je me suis dit ça va leur faire plaisir de voir du soleil.
De la météo, là.
Oui, de la météo je parle, mais de la météo et aussi de vous allez voir.
Pour voir des films autrement.
De toi, tout le monde la regarde de travers.
D'autres réalisations, d'autres points de vue.
C'est social, hein.
Il y a un peu de tout, c'est très varié.
La diversité des films présentés.
Pas de déception cette année.
C'est une autre dimension.
J'aime le cinéma, j'aime surtout celui-là, le cinéma.
C'est pas forcément les films qu'on irait voir au cinéma, c'est des films plus profonds.
C'est un autre regard. C'est peut-être une vision plus juste de la planète telle qu'elle est aujourd'hui.
Toujours une sélection passionnante et pertinente.
Puis ça permet de voir autre chose, c'est différent.
C'est populaire.
Le fait qu'il soit accessible au plus grand nombre, sans badge, sans paillettes.
Tu peux venir n'importe quel jour, tu vas tomber forcément sur un beau film.
Ils sont dans la communication et l'échange, et c'est intéressant de le voir sous un autre aspect.
J'adore tous ces débats, tous ces films qui sont à caractère social, et en plus, une ouverture sur le monde.
S'immerger dans un univers, essayer de le découvrir, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire.
Je sais pas comment mon cahier de couverture, parce que je vois comment j'ai compris,
mais ça sent. Si c'est pas un cas numéro 2, c'est... C'est vision sociale numéro 1.
C'est une des choses les plus intéressantes pour pouvoir échanger des idées.
C'est peut-être dans la réflexion sur les sujets de tous les jours.
Et vraiment, pour moi, c'est un grand plaisir de communiquer.
Une belle surprise, un beau cadeau. Ouais.
Qualité de public et de débat et un lieu magique.
Le cadre, il est génial.
Ah ouais,
on s'est réveillé ce matin, on avait la vue sur la mer.
C'est quand même un des lieux les plus sympas, quoi.
Il se trouve que c'est aussi un lieu de vacances, donc les gens viennent aussi dans un... Voilà, ça dure longtemps, donc les gens s'installent un peu ici.
Chérie, vous avez pris votre serviette pour aller dans
la piscine. Votre avis, non, c'est pour aller au cinéma. Je transpire, je pleure beaucoup. Non, je vais à la piscine, bien sûr.
Voilà, donc c'était je trouve qu'il quelque part il traduit un peu le sens de notre politique culturelle à la CCAS. C'est à la fois basé sur le plaisir le désir de se rencontrer, de découvrir aussi des fenêtres sur le monde, de prendre le temps de d'ouvrir ses fenêtres sur ce temps-là dans ce lieu magnifique, et tant qu'on prend pas forcément pour des raisons diverses et variées les uns et les autres tout au long de l'année. Donc c'est dans un cadre qui est extraordinaire. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le château des mineurs. Et il y a la symbolique aussi qui est quand même forte, quoi. C'est ce château des mineurs, il était propriété des mines du Hauts-de-France, là, du Pas-de-Calais, et il est marqué par l'histoire des premiers congés payés, quoi. C'était le droit des congés payés qui commençait à exister dans ce château des mineurs, et ce château des mineurs qui est au-dessus de la baie de Cannes et qui encore aujourd'hui dans la symbolique est quand même une vigie, quoi, du tourisme social qui est quand même extraordinaire, quoi. Début du tourisme social qui à l'époque voilà, qui était dérangeant, quoi. C'était les salopards en casquette qui venaient sur les plages, quoi, aujourd'hui. Et nous, je pense que si on continue à, alors ce site, il a été racheté par la CCS quand les mines ont fermé, etc. Il a été mis en exploitation. On a créé une SCI avec notamment le CE de la RATP à l'époque, et on a créé une SCI qui permet d'ouvrir à l'ensemble des salariés du pays ce que nous, en propre, on n'a pas le droit de faire, hein. Donc vous pouvez y aller quand vous voulez sur ce site qui est magnifique, quoi. Et donc il a une symbolique, et y compris je pense que le rapport aussi au Festival de Cannes, c'est là aussi, quoi. Le Festival de Cannes, ça a eu une image et une réalité aussi qui est troublante, hein, parce que, et dérangeante, parce que cet étalage de ce qu'on voit dans les médias quand c'est la période, ça dérange quelque part, et nous on a malgré tout c'était un lieu de rencontres avec des productions et des créations cinématographiques qui est extraordinaire. C'était un lieu de rencontres avec des artistes du monde entier, des jeunes artistes du monde entier qui arrivent à créer des œuvres dans des pays où enfin le cinéma n'existe pas, quoi. Donc c'est de vraies rencontres, quoi. Et donc voilà, nous on a aussi cette conviction que comme à l'époque le tourisme était réservé à une classe sociale, l'idée, c'est de pas laisser l'art ni de laisser le cinéma aux classes dominantes aujourd'hui, et c'est d'affirmer une présence populaire sur le Festival de Cannes, présence populaire présence populaire qui est quand même à l'origine aussi de la création de ce Festival de Cannes, avec d'autres, certes, progressistes, mais qui, si le Festival de Cannes existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des syndicalistes à l'époque qui se sont bougés, quoi. Alors à l'époque, je blessais personne, mais il y avait que la CGT, hein, qui existait. Il y avait une unité syndicale qui aujourd'hui s'est morcelée, mais le Festival de Cannes a été construit en opposition à la Mostra de Venise, dont les fascistes s'étaient emparés pour en faire un lieu de propagande. Et donc, il y a des progressistes dans ce pays, dont la CGT, qui se sont mobilisés pour créer un espace où, de culture, de la démocratie, de la liberté, de la culture, quoi. Et ils ont construit, ces syndicalistes, le premier palais des festivals, les premiers rideaux rouges, bien sûr, le premier tapis rouge, bien sûr. Voilà. Donc, encore aujourd'hui, la CGT a deux sièges au conseil d'administration du Festival de Cannes. Voilà. Donc, il y a toutes ces questions qui font qu'on est, j'ai déjà dépassé mon temps, je pense, qu'on est présent sur ce festival. Alors, en vitesse, je vais essayer de faire vite quand même. On est, alors voilà, vous voyez le château. Souvent, on nous résume à le plus gros comité entreprise de France. Alors c'est un résumé qui est un peu lapidaire, hein, parce qu'on est aussi à des dimensions qui sont hors du commun, quoi. Hein. On intéresse, nous, 1% de la population française. On a 670 000 bénéficiaires. On a un champ d'intervention qui est aussi énorme. Hein. Les vacances adultes. Voilà, on a 70 000 familles par an qui partent, les gamins, on a 30 000 gamins qui partent par an, on exploite la restauration d'entreprises, des entreprises, on produit 3 millions de repas par an, on sert des assurances, 400 000 contrats d'assurance, on a une dimension aussi qui, on sert l'action sanitaire et sociale, voilà, à ces 670 000 bénéficiaires aussi, on a une couverture santé à servir, etc. On est si on ramène le périmètre et le champ d'intervention en termes de rapport, on n'est pas forcément le plus gros comité d'entreprise comme on veut bien nous dénommer, mais dans un désir de pointer du doigt, quoi, ces questions-là. Donc voilà, et cet objet, ce comité d'entreprise, il peut l'être, hein, c'est parce qu'il y a aussi une volonté politique derrière, réduit à une espèce d'entreprises, de fournisseurs de services, hein, puisque je vous ai cité là des domaines où ça pourrait être ça, quoi. Mais alors certes, on est bien sûr attentif à produire une certaine qualité de service entre guillemets, mais l'objet premier c'est pas celui-là, quoi, parce que nous on est des syndicalistes quand même avant tout. L'objet premier c'est le même objet que celui du, enfin celui qu'on porte nous, c'est le même objet que celui du syndicalisme. C'est dans un espace qui est un espace travail et qui imprègne toute la vie du salarié, que ce soit dans ses loisirs et à sa retraite, c'est de créer un espace travail qui est un lieu de subordination quand même, où le salarié, on lui demande d'être citoyen en dehors, mais dans l'entreprise, il a qu'à fermer sa gueule, le patron, il a juridiquement ce droit qui est reconnu d'ailleurs par un arrêté de, je crois, conseil général, qui s'appelle l'arrêté conseil général de subordination du salarié, quoi. Et donc nous, notre objet, c'est de d'éclairer sur toutes les dominations que l'on peut subir dans le travail, les dominations de genre, les dominations au niveau de la question raciale, etc., et de créer des rapports de force qui vont nous permettre de nous défendre dans ces temps de subordination. Et pour ça, il faut s'engager, il faut déjà avoir envie de faire bouger les choses, il faut avoir conscience que c'est possible, et il faut s'engager, il faut exercer sa citoyenneté, qui est l'un des mandats politiques, je pense, les plus compliqués à remplir. Donc la culture, vous comprendrez bien, dans ce champ-là, est un outil, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce terme, un outil de d'émancipation pour nous qui est indiscutable, et le cinéma fait partie de c'est un des médias les plus quand même usités, fait partie de ce qui qu'on pense être nécessaire, non pas pour proposer des discours, pour donner du prêt-à-penser, mais pour interroger, pour nous interroger sur ce monde-là et mieux le comprendre, mieux le connaître et de fait avoir envie de le changer pour aller vers la construction d'une société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire, bâtie sur, enfin, pour notre part, sur des valeurs fondamentales qui irriguent le syndicalisme. Voilà. Donc une politique cinématographique, hein, je finis là-dessus, hein, qui va de alors une politique culturelle forte, 1000 rencontres culturelles par an, 300 dotations livres dans chaque salle de vacances, dans chaque colo, des films, une centaine de films dans les centres de vacances qui sont proposés, des aides à la création, une certaine nombre d'aides à la création dans l'année, une implication, une volonté permanente de ne pas faire pour, mais de faire avec. D'ailleurs, une politique culturelle doit se construire avec. Si l'émancipation, ça se donne pas. On donne les moyens de construire sa propre émancipation. Et donc, l'implication, par exemple, des bénéficiaires au travers de jurys, dans les 15 partenariats qu'on a dans le pays de cinéma, hein, que ce soit le FIGRA, que ce soit Poitiers, tout ça a été abordé tout à l'heure, que ce soit Amiens, La Rochelle, etc. On a quasiment partout des jurys de nos bénéficiaires, qu'ils soient jeunes, il y a des gamins de colo aussi qui décernent des prix dans ces jurys-là à des films qu'ils ont choisis, etc., et qui sont ensuite programmés dans les rencontres culturelles de nos centres de vacances. Voilà. Donc j'ai pas tout dit, mais je continuerai.
Bon, donc on va respirer un peu, hein. Merci à vous quatre. Je sans plus tarder, je vous donne la parole pour essayer. Alors, poser les questions que vous avez envie de poser, évidemment. Vous n'aurez pas la réponse que vous attendez, mais vous aurez au moins posé votre question. Et surtout, essayer que ça se rende compte que ça soit instructif pour tout le monde, que ça fasse un débat construit, si c'est possible. Si c'est pas possible, on ne le fera pas. Voilà. Donc, qui veut parler? Toujours les... Alors pendant que ça réfléchit, moi ce qui me serait intéressant, c'est de voir. Il y a eu quand même un certain nombre de choses qui ont été dites sur le sens des interventions de chacun. Et ma grande interrogation, c'est vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire, alors. Benoît la pose de façon plus cruciale parce que c'est son activité principale. Mais je pense que c'est une question pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire comment, effectivement, j'ai aimé la jeune femme qui parlait et qui dit Cannes, c'est pourquoi le festival, c'est pas pour, c'est, elle dit pas pour voir autre chose, elle dit pour voir autrement. Hein, voilà. Donc là, on est quand même sur le cinéma, c'est quand même ça. Enfin, c'est-à-dire, comment on peut voir autrement? Comment on peut fabriquer des images? Comment on peut... Et je pense que les comités, hein, et toute association, au fond, qui... Parce qu'il y a les comités, mais il y a aussi les associations culturelles à l'intérieur des entreprises qui dépendent du comité, mais bon, qui... Bon. Comment, effectivement, elles peuvent permettre de forger son regard, parce qu'en fin de compte, c'est ça, le cinéma. Je sais plus avec qui on parlait, là, ce matin, mais, et qui disait, je crois que c'est toi, enfin, et qui disait, s'il y avait pas eu le cinéma, ben, j'ai été sauvé par le cinéma quelque part. Moi, je pourrais dire ça. Hein, je pourrais dire ça. Donc, voilà. Et en même temps, sauvé par le cinéma que je regarde, moi je fais pas de films, mais quand même, je fais des petites photos, enfin je m'amuse un peu comme tout le monde, quoi. Mais je sais que ce que je vois au cinéma, ce que j'ai vu au cinéma a construit mon regard et ma propre pratique. Donc, vous voyez, et je pense que c'est ça que j'aimerais qu'on essaye de voir comment les possibles qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on est en retard sur les possibles. C'est pas d'ailleurs anormal, hein, c'est pas, y a pas de complexe à voir. Parce que, évidemment, les techniques arrivent avant nous, quoi. Donc voilà, bon, moi je n'ai pas à dire tellement plus que ça, mais je pense que, voilà, je vous connais, enfin il y a des, enfin je connais pas tout le monde, mais j'en connais pas mal, il y a plein de gens qui plein d'entre vous qui ont fait des choses. Il a pas tout dit, même Henri tout à l'heure, sur la première fois que je suis venu ici, j'ai vu un film, je ne sais plus quelle entreprise qui l'avait fait, un grand film qui avait été fait, une fiction. Oui, c'est les cheminots. Non, je crois pas, je crois que c'est General Electric ou un truc comme ça. Enfin, peu importe, voilà. Mais je peux pas parler non plus.
Oui, non, mais pour compléter, c'est vrai que l'écran total aussi donne l'espace à des comités d'entreprise qui sont créateurs de cinéma, de films, qui, comme tu l'as peut-être dit, c'est peut-être pas une qualité exceptionnelle, mais au moins ils ont un droit à l'image et on peut les diffuser. Après, je pense que il y a quelques défis où il faut s'interroger. C'est aujourd'hui les plateformes numériques qui prennent un espace assez important, ou même malheureusement des réalisateurs donnent l'exclusivité à ces plateformes pour des raisons de diffusion, parce que le film sera diffusé dans le monde entier le même jour, il sera peut-être susceptible d'être vu par X personnes en même moment. Et ce qu'il y a de dangereux, en tout cas moi je le vois par mon comité d'entreprise, c'est que ils sont tentés à subventionner les abonnements pour ces plateformes. Donc là aussi il faut être vigilant pour éviter que malheureusement les personnes ne voient plus le cinéma que par cette fenêtre là donc parce que aussi nous par exemple lors de ce festival il y a des débats, il y a cette journée comme cette journée d'aujourd'hui qui est, pour moi, est très importante et très riche, très très enrichissante. Mais donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue, qu'on existe encore assez longtemps. Et c'est pour ça que les comités d'entreprise et les associations inter-entreprises doivent continuer cette bataille, ce combat, pour amener les comités d'entreprise à être acteurs et toujours à produire des festivals, des initiatives qui vont amener les salariés, mais les personnes aussi, parce que le festival n'est pas fermé qu'aux salariés d'entreprise, mais aussi à un public du cinéma et un public plus large, à réfléchir, à voir autrement la société par le biais par le spectre du cinéma, par la fenêtre du cinéma.
J'ai beaucoup réfléchi avant de demander la parole. Parce que j'ai peur de me tromper dans les mots, mais je vais essayer le plus direct possible. Il y a plusieurs années, j'étais dans cette même salle, 92. Ça date déjà, 92. Je suis venu là, ici, invité. Et je travaillais un peu plus loin dans un lieu qui s'appelle à Grenoble le Synchrotron. Je suis électricien. Et je suis venu ici montrer un film que j'ai fait, parce que j'avais réussi à faire entrer clandestinement une caméra à la mission la plus importante de Pinochet au Chili. Je suis chilien, ancien militant de la résistance chilienne. J'étais invité à cette salle à montrer ce film qui s'appelle Les Prisioneros. À l'époque, j'étais très ému, comme aujourd'hui, parce que c'est un monde de réflexion et de partage des points de vue. Il me ramène à différents moments et différentes situations qui font le parcours du réalisateur que je suis venu aujourd'hui. Parce que mon parcours ne s'est pas arrêté avec la réalisation de ce film. Il a continué avec la réalisation d'un film qui s'appelle Mapuches, les gens de la terre. Aujourd'hui, c'est une femme mapuche qui dirige la soi-disant assemblée constituante au Chili. Ce qui nous donne une idée du bouleversement qui a été ce véritable cataclysme qu'on vit au Chili depuis 2 ans. Et ça continuait avec un film qui s'appelle Parole des trêves sur le mouvement social décembre 95 qu'on a fait, entre autres, et je rends un hommage à la personne qui a écrit les préfaces de ces films, Patrick Descarlis, avec qui on était absolument engagés et on a fait corps autour de ces films qu'on a reçu même des prix. Et cet engagement, il a continué, mais les réalisateurs, comme moi, par exemple, tous mes films, ils sont répertoriés à l'USAS. Vous parlez tout à l'heure de l'USAS. Être à l'USAS, pour tout réalisateur, c'est un immense honneur. Pour moi, il a été toujours un honneur d'être là-bas. J'ai fait récemment un film qui s'appelle Monica y el Ronco. Et avec lesquels j'ai été invité dans plusieurs festivals. Festival du cinéma de l'Amérique latine, etc. et autres. Mais il y a aujourd'hui, même parmi nous tous, ce que j'appelle une normalisation des regards qui s'est installée. C'est-à-dire, nous, auteurs, on doit faire des photos. Désolé, je suis photographe aussi, donc. On doit faire des films comme à la télé. Et si c'est pas fait comme à la télé, c'est pas bon. Parce qu'elle n'est pas normalisée. Et je rentre dans une situation de désespération parce que même aujourd'hui, toutes les plateformes desquelles qui nous ont fait ces références, ils essayent de nous museler et de nous brider et de castrer notre regard et que dans bien des moments, il ne pourra pas être autre qu'un regard de révolte. Et c'est quelque chose qui me travaille tous les jours. Parce que j'ai fait un film récemment, même à Cannes, ils ont failli me mettre dehors. Pourquoi? Parce que c'est un film qui ne suit pas les normes. Il ne suit pas les normes. Ni d'écriture, ni de traitement sonore et esthétique. Mais c'est ça ce que je voulais faire. Et que ce soit un film ainsi. Comme je ne suis pas quelqu'un qui a fait des études du cinéma ou autre, je suis autodidacte essentiellement. J'ai fait mes films avec mes tripes et avec les seules choses que j'ai, que c'est ma sincérité. C'est pour ça que je voudrais profiter, c'est la dernière fois que je prendrai la parole, à vous inviter samedi à 18h dans cette salle, à partager une émotion, et l'émotion du combat. Merci.
Merci pour cette question. C'est vrai que la question de la normalisation, elle est problématique parce que la normalisation, c'est excluant. Et du coup, comment, pour ta question, c'était comment aussi, comment on fait? Moi, personnellement, j'ai un outil que j'emploie de plus en plus et que je voudrais vous transmettre très rapidement, qu'on appelle les droits culturels. Les droits culturels, c'est la question de la démocratie culturelle. Hein, oui.
Non, c'est pour...
D'accord. Et c'est pas la même chose que la démocratisation. La démocratisation, c'est on donne d'en haut. Vous voyez, la démocratie, c'est quand chacun a sa place. Et du coup, les droits culturels, bah, il y a, je sais pas si vous les connaissez, mais il y a 8 mots clés, je vous les donne. Il y a la question de l'identité. La question de, ben je les ai perdus parce que comme je suis un peu émotionné, ça va revenir. Simplement, ce que je voulais vous dire, je voudrais pas me planter, je voudrais les dire dans le bon ordre. Je voulais dire une autre idée aussi, c'est la question du récit, c'est-à-dire quel récit on fait de sa propre culture, comment on fait récit de quelque chose. Et du coup, tout ça, pour moi, est très lié à la question du patrimoine aussi, c'est-à-dire quelle trace on garde finalement des choses qu'on fait et comment on les partage. Et donc, les 8 mots, je vous les donne. Donc, il y a l'identité, la diversité, le patrimoine, la communauté, la participation, l'éducation, l'information et la coopération. Et je crois que quand on envisage un projet quel qu'il soit, c'est intéressant de se poser toutes ces questions-là, c'est-à-dire de poser la question de la place qu'on donne aux personnes à qui on s'adresse pleinement. Pour moi, c'est un outil assez opérant, en fait, pour évaluer, si j'ose dire, les projets.
Merci. Alors, c'est toujours comme ça. Maintenant, j'ai beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns qui sont inscrits. Donc, Sylvie, après, ça sera là-bas, et après, comme ça, voilà.
Oui, j'ai envie de te dire une chose. J'ai réagi à ce que tu as dit sur la question de la normalisation du regard. J'ai noté exactement ce que tu avais dit. Non, mais une normalisation du regard s'est installée. Je crois que c'est à la fois vrai, mais moi je crois que je reprendrais assez volontiers ce qu'avait dit Jean-Pierre Dadel. Je pense que vous le connaissez de nom. C'est quelqu'un de formidable qui a créé un cinéma qui s'appelle L'Alhambra à Marseille, qui a fait un magnifique film avec Fernand Deligny qui s'appelle Le Moindre Geste, sur un jeune autiste qu'il a filmé des heures. Et puis après, finalement, il a décidé d'arrêter de faire des films en disant « Moi, ce qui me nourrit, c'est de voir les films des autres ». Et je crois que quand on est découragé, parce qu'effectivement on a le sentiment qu'on vous envoie promener vos films, parce que pour tout ce que tu disais, il faut absolument garder le film des autres et vraiment être complètement à la curiosité et à l'affût de tout ce qui se passe d'intéressant. Et moi, je voulais vous parler d'un film, si vous pouvez avoir l'occasion de le voir. C'est un film qui est un film de Dominique Cabrera. Qui s'appelle Les notes sur l'appel de Commercy, parce que les Gilets jaunes ont fait un appel. Et ils ont mis en scène un appel en lisant chacun à leur tour une chose qui les importait, qui leur importait personnellement. Et là, cette question de la subjectivité et du fait que la relation entre un mouvement collectif et le fait et pourquoi les gens s'engagent individuellement, ça me paraît quelque chose de très important. Et c'est ce qu'ils ont mis en scène. Et Dominique, quand elle a vu ça, elle a été très émue, comme moi d'ailleurs, comme vous voyez, comme j'en parle. Et elle est partie à Commercy avec sa caméra. Et elle a filmé quelque chose qui s'appelle « Notes sur l'appel de Commercy », que je vous invite à regarder parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Sur la question des droits culturels, moi je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose de très important. Je vous invite à vraiment réfléchir à cette question. Ça a été initié par l'appel de Fribourg, une bande de philosophes, je ne sais plus quand, en 2007, c'est ça. Et c'est une idée toute simple, mais qui n'est pas si évidente que ça chez nos édiles du ministère de la Culture. C'est que la culture, la personne qui est en face de moi, toi, t'as autant de culture que moi et moi j'en ai autant que toi. Il n'y a pas des gens cultivés et des gens qui le sont pas. Chacun a une forme de rapport au monde qui constitue sa culture. C'est ce que dit Lévi-Strauss aussi, je voudrais pas dire. Mais c'est vraiment très important de savoir ça parce que ça veut dire qu'on a des rapports d'égo, E-G-A-U-X, évidemment.
D'égo aussi, d'ailleurs.
Chacun et qu'effectivement... La culture, c'est cette espèce de communauté partagée, mais à partir de sa propre expérience et sa propre relation au monde. C'est très important, parce que du coup, tout le monde, finalement, a une culture. Et quand tu disais, toi, que les gens étaient intimidés à l'idée de commencer à oser faire quelque chose, c'est vrai qu'il faut partir de là. Parce que tant que des gens seront intimidés à l'idée ou de s'exprimer, ou même de regarder un film ou d'aller dans un musée, rien ne se fera. Et je pense qu'on est tous là pour ça, quoi. Voilà.
Oui, moi, je vais plus poser des questions. En plus, je ne suis même pas sûr d'être clair dans ce que je vais dire, mais tant pis, je vais essayer de le dire. Moi, je suis un peu comme toi, Jean-Pierre, c'est-à-dire que moi, je me suis construit dans le cinéma. Moi, mon père m'a amené au cinéma tout petit, je suis allé tout petit, j'ai suivi l'image. Donc voilà, je me suis construit avec ça, sauf que toute la période où moi je suis allé au cinéma, il n'y avait pas le même afflux d'images et de films qu'aujourd'hui, en quantité je parlais. Aujourd'hui, donc du coup, il y avait pas la télé, moi j'avais pas la télé, et donc du coup, quand vous voulez voir un film, il y a pas 50 manières d'aller voir un film. Donc voilà, donc du coup, moi je me suis construit avec ça, et j'ai vu plein de films, alors des bons, des moins bons, j'en sais rien, mais bon, ça m'a construit. Là, aujourd'hui, ce que je sens, là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est un peu comme l'information, c'est le même problème d'information, c'est-à-dire qu'il y a un afflux d'informations, ou là de films ou d'images qui arrivent en même temps, et comment là-dedans se retrouver, de dire là ça c'est intéressant, ça l'est pas, dans la masse de choses auxquelles on est confronté. Et les plateformes rajoutent encore une couche là-dessus, voilà, donc mais c'est quand même hyper compliqué. Donc après, moi, ce que j'ai vu tout à l'heure là de ce qui est fait donc avec Vision Sociale, c'est que il faut arriver à donner envie et aider pour accompagner, pour aller voir des choses. C'est-à-dire que si on laisse les gens tout seuls dans leur face à tout cet afflux de films, se débrouiller tout seul pour dire ça devrait être pas mal et ça devrait être pas mal, ça va être compliqué. Voilà, donc c'est, et je pense que là il y a matière à réfléchir sur comment on s'y prend, quoi. Voilà, donc c'est, parce qu'après moi ce que je dis souvent, je veux dire, à un moment donné, si c'est pour faire des films intéressants et qu'on se retrouve dans une salle avec des gens qui sont déjà convaincus de ce qu'on va voir, je veux dire, moi en tant que militant syndical, ça m'intéresse moyennement. Moi ce que j'ai envie, c'est de ceux qui ne viennent pas, que je leur donne envie de venir, parce que bon, quand on se retrouve entre convaincus, on est un peu plus à la fin convaincus, on apprend toujours des choses, on en apprend tout le temps, mais quand même, si on veut changer des choses dans ce pays, il faudra élargir un peu le cercle, quoi. Voilà. Donc ça, c'est comment on s'y prend sur le, par rapport, parce que moi, je pense que c'est un vrai outil, comment dire, d'émancipation, quand on est dans une salle de cinéma. Alors, je dis pas que regarder la télé, c'est pas, on n'apprend pas des choses, je dis pas ça, mais quand même, ce qui rentre dans nous n'est pas la même chose quand on est dans une salle de cinéma que quand on regarde la télé. Le même film, même s'il est bien, on le vit pas pareil et on le retient pas pareil dans la tête. Donc voilà. Donc moi je pense qu'il y a quand on regarde un film sur un téléphone, j'en parle même pas. Mais voilà. Mais bon, qu'est-ce qui reste? Combien de temps dans la tête? Est-ce qu'on se rappelle? Je suis convaincu que quelques années après, on a tout oublié. Alors qu'un film qu'on a vécu de manière pleine dans une salle, on le retient. Donc voilà, donc ça, ça me semble, c'est trouver, comment dire, alors j'ai pas de solution, c'est pour ça que je vais dire, je vais poser plus de problèmes que de réponses, hein, voilà. Mais je pense qu'on est confronté à ça, et après, bon, ce matin, on a parlé un peu des CE, donc les CE ont un rôle, alors, sachant que c'est compliqué, je l'ai dit, voilà. Mais faut trouver des moyens d'attractivité, comment dire, pour faire le festival Écran Total, il a été créé pour ça. Quand on l'a créé en 2002, voilà, donc c'était, on l'a créé pour ça. On a dit, faut qu'on crée des événements qui permettent aux gens de venir. Avec la proximité, c'est plus facile, quoi. Enfin, plus facile. Ça semble plus facile, en tout cas. Et mais voilà, donc voilà, c'est, je sais pas si j'étais clair dans ce que je voulais dire, mais je vis avec ça dans ma tête là depuis je sais pas combien de temps, et j'ai du mal à trouver les bonnes solutions, les bonnes réponses. Voilà, on fait des choses, hein, mais par rapport à tout ce qu'il faudrait faire, on sent qu'on fait des, je sais pas, comme c'est l'expression, on rame avec une cuillère pour enlever la mer, je sais pas comment faire. Mais voilà, bon, il en reste beaucoup à faire, quoi. Donc c'est, voilà. Je m'arrête parce que je vais redire ce que j'ai dit au début. Alors, donc,
est-ce que je peux... D'abord ici. Ouais, parce que je voulais justement réagir à ce qu'a dit tout à l'heure Patricio Pardo. Il s'est exprimé en tant que réalisateur, en tant qu'auteur. Et moi, en tant que, dans mon métier, moi je suis animatrice culturelle, du moins ça s'appelait comme ça quand j'ai commencé ce métier. Et je rejoins avec, sous mon angle à moi, mais je rejoins cette préoccupation de dire comment... comment on s'en sort aujourd'hui pour rester fidèle à ce qui fait le cœur de nos métiers, de nos convictions, comment on porte tout ça sans se perdre, parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit, qui de surcroît en pleine crise sanitaire, etc. Mais en fait, je voudrais juste paraphraser Michel Serres qui disait « si A a un euro, si A a du pain », A peut donner un euro à B, bon, ils échangent, voilà, donc il y en a un qui a perdu un euro, gagné du pain, etc. » Si j'ai un sonnet de Verlaine ou le théorème de Pythagore et que je l'enseigne, eh bien à la fin, celui qui l'a reçu l'a, mais l'autre ne l'a pas perdu. Et il dit dans le premier cas, il y a échange, c'est la marchandise. Dans l'autre, il y a accroissement, c'est la culture. Eh bien, cette idée-là, elle m'a redonné un peu de peps en cette rentrée difficile, parce que je trouve que c'est ce cap qui est difficile à conserver aujourd'hui, s'opposer au formatage, au grand divertissement, etc. C'est-à-dire conserver et développer des choses qui mobilisent, qui sont dans le partage, qui sont sans pour autant être dans la grande foire de, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, d'entendre ce que vous avez dit chacun. Par exemple, Benoît, quand tu témoignes de cette expérience faite avec les nouveaux outils, c'est-à-dire c'est pas hors du temps, hors du monde, non, on est bien dans, et pour autant, cette démarche-là, elle a un sens et des effets inouïs. Pareil, Eddie, cette expérience que tu décris de toutes les actions que vous menez, des livres dans les centres de vacances, partager des lieux de loisirs, des lieux de culture avec, ben, moi, il me semble que là, on tient. C'est ça qu'on doit pas lâcher. C'est plus ça, mon idée. C'est pas que ça meurt, c'est qu'il faut, continuer à le faire vivre, quoi. Voilà.
Oui, bonjour, Fabrice Canet, je suis secrétaire général de l'Union départementale CGT de l'Ain. J'avais deux petites remarques, enfin trois. Première, sur l'éducation à l'image. On a eu la chance à Bourg-en-Bresse d'avoir le 40e festival du film d'animation de jeunesse, qui a eu lieu il y a un mois. Et il y a tout un processus d'éducation à l'image qui est fait dès le plus jeune âge. C'est une petite parenthèse, mais qui me paraît important, c'est les 40 ans. Et voilà, d'apprendre aux enfants à s'approprier d'autres esthétiques, d'autres formes d'imaginaire, avec un travail qui est fait dans les écoles, dans les centres sociaux, toutes ces choses-là. Donc ça commence par là. C'était une petite parenthèse en tant qu'élu local. Maintenant, en tant que CGT, il y avait sur les Jean-Luc en a parlé ce matin sur l'offre, sur la politique de l'offre au niveau des CSE. Aujourd'hui, on a quand même des CSE qui ont diminué les droits des syndicats. Toutes les prérogatives sont concentrées sur une seule instance. Et appelons un chat un chat. Hein. C'est-à-dire que moi, en tant que secrétaire général, quand on met le plan de formation, on dit à nos syndiqués, vous êtes amenés inéluctablement à faire des priorités. Vous pouvez pas traiter tous les éléments au sein du CSE. Faites des priorités. Les priorités, c'est pas l'union départementale de les définir, c'est aux syndiqués, aux élus, collectivement, de les définir. Et dans ces priorités, il y a quand même les questions d'anticipation des mutations socio-économiques avec l'arrivée du numérique dans le travail. Il y a les questions économiques de l'entreprise. Il y a les questions de santé au travail. Il y a toutes ces questions-là. Et malheureusement, inéluctablement, les questions d'activité sociale et culturelle, dans ces priorités, dans le meilleur des cas, elles sont reléguées à un rang secondaire. Et dans le pire des cas, ce qui est souvent le cas par ailleurs, elles sont quasiment pas traitées. Et quand elles sont traitées en tant qu'outil de pouvoir d'achat dans le contexte qu'on connaît. C'est une réalité. Il y a les camarades de Minénergie, il y a les camarades cheminots que j'ai entendus, qui sont quand même des cas. Pourtant, on est un département dans l'Ain. Il y a la centrale nucléaire de Bugey, il y a un secteur cheminot bien développé, mais qui sont quand même sur la réalité du salariat, tout au moins dans l'Ain. Qui sont loin d'être la norme, et que c'est très, très, très difficile sur ce travail des CE et activités sociales et culturelles, c'est compliqué. Plus que compliqué, j'ai envie de vous dire, je suis pas super optimiste. Par ailleurs, c'est le rôle des structures interprofessionnelles, des syndicats, de pousser sur ces aspects-là, mais je reboucle sur les CSE et la diminution des droits. C'est pas le syndicalisme qui est en difficulté, c'est le syndicalisme interprofessionnel qui est fondé sur les solidarités. Dernier point, j'entends beaucoup sur les questions du travail. Moi, je vois des éléments positifs aussi. Quand je vais sur Netflix, je vois des séries israéliennes sur des formats mini-séries, 8 épisodes où les choses ont le temps de s'installer. Je vois des séries polonaises, belges, wallonnes, etc., où on a des univers différents. On aborde des questions du travail où ça a le temps de se poser. Donc, je pense qu'il faut pas. Je pense que Netflix et séries, il y a des choses comme ils ont besoin de flux. Alors, il y a peut-être le Covid qui a fait que, mais sur Netflix, c'est des choses intéressantes. Enfin, sur les plateformes en général, venu d'autres horizons, d'autres pays, d'autres cultures, et avec le format série permet des choses que le format film ne permet pas. On l'a évoqué ce matin sur les réseaux sociaux. J'ai une fille de 16 ans et demi. Sur les réseaux sociaux, moi je les ai vus, les vidéos. Je sais pas, quelqu'un parlait tout à l'heure, parlait de la vidéo de l'éboueur, de la vidéo d'Intel, des choses qui circulent sur TikTok, sur d'autres réseaux. Les jeunes échangent entre eux. Donc je pense qu'il faut pas opposer. Il y a quand même il y a plein de points positifs sur comment on donne visibilité au travail qui avait pas. Voilà. il y avait du travail qui n'était pas visible, quoi. Hormis un film de Michel Serrault sur les éboueurs, il y a La gueule de l'autre, je crois que ça s'appelait, de mémoire, je sais plus, je suis pas un grand cinéphile. Mais voilà, j'ai envie de dire, attention, alors, il y a aussi d'autres formes de médias, il y a d'autres formes d'intervention où le travail apparaît. Alors bien sûr, pas tout le temps comme on le voudrait. Il y a besoin d'un accompagnement. Je crois que c'est Jean-Luc qui le disait aussi, une forme d'éducation populaire, qui est le rôle aussi des syndicats. Mais voilà, c'est un ensemble de réflexions en vrac, mais de pas avoir obligatoirement une vision négative. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui avec le numérique, les réseaux sociaux, etc., sur le cinéma, mais à mon avis qui dépasse le simple cadre du cinéma et du travail dans le contexte actuel. Voilà, c'était un ensemble de petites remarques. Merci.
Ah pardon, excusez-moi. On est un peu contraint par le temps. Le temps, il existe. Enfin, c'est pas sûr, mais enfin bon. En tout cas, on est bien forcé d'arrêter un moment. Alors, est-ce qu'on peut encore disposer de 5 minutes, Nicolas? Bon, voilà. Donc, comment? Qui? Toi? Oui. Donc, inscrivez-vous tout de suite pendant que Henri parle, et après, on sera forcé d'arrêter.
Oui, parce que je voulais pas que mes propos soient détournés. Moi, Netflix, de fait, ça existe, ou d'autres structures comme elle, d'autres plateformes comme elle. Mais après, il y a tout le danger du financement du cinéma et des films, qui est une question quand même primordiale, surtout en France. Donc, ça peut être très dangereux. Netflix aujourd'hui, quand ils diffusent des films, ils ne payent pas grand-chose, voire rien du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi réfléchir à cela. Après, sous le rôle des comités d'entreprise, c'est vrai, je te rejoins. Moi, je suis élu CGT à ST Microélectronique, une boîte, une entreprise qui a plus de 9000 salariés, dont 6000 dans la région grenobloise. La culture passe vraiment à part, même au fond du tiroir. Mais je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à une cause nationale, vraiment une cause nationale syndicale. Sur ces réflexions-là, sur comment remettre la culture au centre du syndicalisme. Est-ce qu'il faut renforcer les associations d'inter-CE quand les comités d'entreprise n'ont plus le temps de s'en occuper? Pourquoi pas? Parce que, comme tu le dis, les CSE, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut avoir une réflexion profonde sur le sujet. Mais on a quand même une chance unique en France, c'est que les comités d'entreprise ont de l'argent, voire des fois beaucoup d'argent, et qu'une partie de cet argent pourrait être vraiment consacrée à la culture, et ça pourrait être bénéfique à tous. Je pense même au milieu syndical et au milieu ouvrier. Voilà.
Merci. Alors, ça va être le... Je prends toujours encore les interventions. Benoît.
Oui. Je tiens le... Non, c'est bon. Sur cette question de l'enrichissement, ce que tu disais sur les apprentissages mutuels et on n'y perd rien, ben le numérique il permet ça aussi, hein, il permet de partager très très fortement. Donc je pense que ça n'est qu'un outil et il peut être utilisé comme un outil de domination, mais aussi comme un outil d'émancipation. Voilà, ça c'est évident. Et par ailleurs, là-dessus, je voudrais juste faire, j'ai beaucoup travaillé sur le travail, une étymologie du mot travail. On pense que ça vient de tripalium, la torture. En fait, il a une étymologie plus ancienne que ça, que vous connaissez peut-être. C'est la même racine que le mot travel en anglais, c'est-à-dire c'est le voyage, la transformation.
Ça nous libère. Est-ce que vous souhaitez, Eddy, un dernier mot? Peser, ouais. Si possible.
Hein? Peser. Oui. Non, je sais pas. Bien sûr que c'est difficile dans les comités d'entreprise aujourd'hui, les CSE, y compris chez nous, hein, parce qu'on a une dimension donc que j'ai évoquée, mais on a une dimension qui est bien plus complexe que celle du nucléaire, quoi. Hein. On a certes des usines, mais on a aussi des ateliers dans les régions où ou qui sont voilà aujourd'hui des dimensions très proches des petites entreprises quoi hein. Donc on a une austérité. Alors bien sûr que c'est compliqué parce qu'on est aujourd'hui, y compris chez nous dans les IEG, on est plus sur la défense aujourd'hui de l'entreprise, du service public, des emplois, voilà, on va voir les premiers licenciements économiques, alors que c'était un truc qu'on n'imaginait pas, quoi, qui n'était pas dans le domaine du possible. Donc, bien sûr que c'est compliqué, mais moi, je suis d'accord que il faut pas opposer les choses, il faut essayer de trouver des solutions. On a besoin de toutes les énergies, quoi. Pour aller vers l'émancipation du salarié, parce que quand on est syndicaliste, moi je suis convaincu que c'est quand même ça quoi le truc quoi, c'est ça le Graal quoi. Et on a besoin de tous, on a besoin du syndicaliste, on a besoin du tract, on a besoin de l'appel à la grève, on a besoin de faire des conférences, des tables rondes, mais on a aussi besoin des artistes, des créateurs, au-delà des artistes, des créateurs qui nous ouvrent des espaces sur des regards originaux sur les réalités du monde. On a besoin de tout ça, quoi. Alors après, quand on a dit ça, on n'a rien réglé. Comment on fait, quoi? Comment on fait? Moi, la question de la démocratie culturelle, pour moi, elle est fondamentale. C'est comment on part de la culture des individus, quoi. Pour créer cette passerelle avec la création artistique, scientifique, politique, etc., etc., quoi. C'est des passerelles qu'on a besoin de créer entre nous, quoi. Et partir de la préoccupation et de la culture de chacun d'entre nous, partir de la culture du salarié. Un exemple, nous on a eu la chance et le bonheur de créer des événements autour de la rencontre avec l'art contemporain. Ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais c'est la même problématique sur l'art contemporain dans une boîte d'Enedis. Alors projet qu'on a travaillé avec le ministère de la Culture, etc. Et on est parti en fait d'une exposition d'œuvres d'art contemporain dans l'entreprise, à partir d'œuvres qui abordaient les questions sous l'angle de l'éclairage et de la lumière. Parce que nous, on est des travailleurs de la lumière, quoi. Et cette entrée-là, associée à une médiation exercée par les salariés eux-mêmes auprès de leurs collègues, après une formation, etc., etc., elle a permis des rencontres improbables avec des gens qui arrivaient devant une œuvre qui abordait la question de la lumière. La première question, c'était comment il a alimenté le truc, quoi. Et le premier réflexe, c'était de regarder derrière. C'était pas de regarder devant, c'était comment ça marche, le machin, quoi. Mais sauf que là, quand cette porte, elle est ouverte après. Mais après, c'est la rencontre avec l'artiste, c'est voilà, quoi. C'est, alors après, il faut qu'on trouve des solutions. Mais nous, qui sommes d'une dimension, peut-être hors norme, mais nous, on a les mêmes problématiques aujourd'hui. On est enfermés dans nos militants syndicaux. Ils ont les droits aujourd'hui accordés sur les métiers. C'est-à-dire qu'on est, explosé en métiers et on n'a plus de moyens hormis pour s'interroger collectivement sur des préoccupations transverses. On n'a plus ces moyens-là, quoi. Et il faut se les trouver, ces moyens-là. Il faut remplacer ce qui existait avant là. Et la rencontre artistique et culturelle, je pense qu'elle peut aider à ça, quoi. Et ça passe. Moi, j'en suis fondamentalement convaincu, et ça va peut-être en étonner certains parce qu'on a aussi une histoire un peu corporatiste, hein, j'en conviens, hein. Mais je suis fondamentalement convaincu que ça passe par un travail, où on sort de nos périmètres, là, habituel de travail, et où on travaille à plusieurs, quoi, ce sujet-là. C'est la seule voie. Sinon, on va tous crever chacun dans notre coin avec nos certitudes et en se lamentant parce qu'on n'arrive à rien, quoi. Donc c'est la seule voie de voir comment on peut travailler ces questions-là à plusieurs. Voilà. Moi j'ai un truc, là, je finis là-dessus. J'ai un rêve. C'est pas un festival de Cannes. J'ai un rêve, c'est qu'on crée un événement concomitant dans le pays. On a déjà commencé, nous, à essayer de le faire dans le pays. On appelle ça le festival de Cannes hors les murs, quoi. Un événement pendant le festival de Cannes avec des comités d'entreprise dans le pays où on se réapproprie cet événement qui nous a été quelque part un peu quand même confisqué, en organisant à des mêmes moments des rencontres autour de cinéma et travail, quoi. C'est un rêve, une utopie. C'est bien d'avoir des utopies.
Je suis forcé de te couper parce que je sens de la patience. Il y a d'autres choses après. Après, il y a une projection ce soir, donc on peut pas aller au-delà de ça. Je suis un peu désolé. C'est comme ça. Je veux dire deux choses pour terminer. La première, trois choses. La première, de vous remercier parce que c'est toujours bien qu'on soit là. Et, là, et dans le même cas, dans la même foulée de ça, j'ai envie de dire que Taïk Riyak et Monciné, enfin, et TTI, enfin, excuse-moi, oh là là, c'est un renvoi. Les sociétés statuales ont bien fait d'organiser cette rencontre, parce que je me rends compte qu'effectivement, il y a longtemps que je n'ai pas entendu une assemblée comme ça qui parle de culture et de travail, sur le cinéma, certes. Un peu en Avignon, on avait eu sur le théâtre, mais là, c'est vraiment autre chose, et c'est sur une journée. Avignon, c'était une demi-journée. Je dis ça parce que, vraiment, on a vraiment besoin de remettre ça toujours, parce que dans la vie, il y a le vital et il y a l'essentiel. C'est pas pareil. Le vital, on l'assure. Il faut bien manger, il faut bien se vêtir, il faut avoir... Mais ça, c'est le vital. Mais l'essentiel, qui nous permet de vivre le vital au total, après, ben ça passe souvent un peu à la trappe. Et donc, il faut vraiment le remettre sur le devant de la scène, tout le temps, un peu. La deuxième chose que je veux dire, c'est que la culture, ça se transmet quand même... ça se propage pas comme la lutte, au fond. C'est pas le même travail. C'est d'oreille à oreille et de cœur à cœur, quoi. Si je lis, je fais lire. Et si je lis, j'ai besoin d'en parler. Et si je peux pas en parler, je lis pas ou je lis pas vraiment. Si je vois un film et que j'en parle pas, je n'ai pas vu le film. C'est quand je rencontre du film que je m'aperçois que j'ai mieux vu le film et qu'on l'a vu ensemble. Et le cinéma, il s'est construit dans ce pays grâce au ciné-club aussi. On n'en a jamais parlé de ça. Mais il s'est construit comme ça, le cinéma. Et les réalisateurs, ils n'ont pas pensé qu'à diffuser leurs films. Ils rencontraient les publics, ils changeaient leur réalisation en rencontrant les publics. Donc c'est ce double rapport. Dernière chose, vraiment, c'est vraiment... je pense qu'il faut qu'on se creuse la tête sur les... Enfin, il y a plein de gens qui font des petites choses sur eux. Et on peut en faire. Moi-même, je fais des petites choses. J'essaie de faire des... On prend le train, ben, on fait une minute du paysage à travers la vitre. C'est terrible. Moi, j'ai un gars qui m'envoie des trucs. Alors, c'est 45 minutes sur le pont. Mais il bouge pas. Enfin, c'est le pont qui bouge, quoi. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est d'une poésie incroyable. Tu n'en as pas parlé, mais tu as fait des choses poétiques, quoi. Très fort. Mais c'est la poésie qui nous transforme. Il faut pas avoir peur de ce mot. Il faut surtout pas. Il nous appartient. C'est pas, voilà, donc c'est terminé. Dernière chose, on va laisser la place à. Je voulais dire, il y a, dans ce qu'a dit Eddie, il y a des choses qui étaient pour Tech un peu, j'ai entendu. Hein, de faire, tu sais, les cannes, tout ça. Il faut que vous travailliez ensemble, là, les copains. Je termine vraiment. Donc on va voir une expérience, un travail, artistique qui a été fait par Jean-Charles Massera et puis Thibault, donc ils vont vous en parler. Je leur laisse la parole. Vraiment, j'étais très content d'animer, je sais pas si j'ai animé, mais en tout cas, j'étais là, quoi.